D'un tout conflit armé, chaque camp essaye de connaître les intentions de ses ennemis. Cette bonne guerre est évidemment fort utile puisque, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Mais l'information n'est profitable que si l'on s'en sert pour préparer sa défense, ou mieux encore, lancer une attaque préventive. Jude a longuement mis ses lecteurs en garde, disant que des loups avaient pénétré dans les bergeries du Seigneur. Des faux frères, des enseignants de mensonges s'étaient introduits dans les assemblées chrétiennes. Cependant, un simple avertissement est insuffisant, et Jude le reconnaît bien. Il est nécessaire de concevoir un plan qui identifie les adversaires afin de pouvoir les mettre hors d'état de nuire avant qu'ils ne fassent du grabuge parmi les membres des églises. Comme on dit, il vaut mille fois mieux prévenir que guérir. Les questions qui se posent sont donc celles-ci. Comment les croyants peuvent-ils, d'une manière très pratique, combattre pour la vérité alors qu'ils sont environnés de personnes qui répandent des mensonges? Les masses médias, les organismes officiels, scientifiques et les centres d'enseignement, de la maternelle à l'université, luttent d'un commun accord contre la plupart des vérités des Écritures. En second lieu, comment démasquer les hérétiques et appliquer les avertissements de Jude à sa propre vie? Que faire et par où commencer? Il faut déjà se tenir pour dit que tant que le diable sera en liberté, il y aura des apostats. C'est inévitable. Sachant donc que, tôt ou tard, on va essuyer une attaque, il faut sans tarder se préparer et s'équiper pour le combat. L'apôtre Paul donne une liste des armes à porter. Je lis le passage. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. » Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » Fin de citation. Une fois armés jusqu'aux dents, les croyants doivent acquérir du discernement de manière à pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, jusqu'à être capables de repérer une aiguille de fausse doctrine dans une meule de vérité. Ils doivent pouvoir distinguer la foi authentique de ses contrefaçons et donc obéir à l'exhortation de Jude de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'importance de posséder du discernement ne peut pas être suffisamment soulignée. Un proverbe dit « Acquiez la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement et ne t'en dessaisis pas. » Aux membres de l'église de Corinthe, l'apôtre Paul exprime son inquiétude à cause, justement, de leur manque de discernement spirituel. Il leur dit « J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. » Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Alors qu'il était parmi nous, Jésus a maintes fois croisé le fer avec les chefs religieux de son temps. Ces derniers avaient reçu une formation théologique rigoureuse et prêtaient une attention scrupuleuse aux écrits de l'Ancien Testament, et pourtant ils avaient autant de discernement qu'une couleuvre. Un jour, ces religieux sont venus voir Jésus pour lui demander de faire un miracle. Mais le Seigneur leur a répondu, au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge, ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus adresse la parole à sept églises. Celle d'Éphèse n'était pas sans reproche, cependant elle avait du discernement spirituel, et Jésus lui a dit « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. » Le manque de discernement a plusieurs causes. Pour commencer, les croyants connaissent très mal les Écritures, ce qui fait qu'ils se laissent facilement duper. Heureusement, il en est qui sont très sérieux dans l'étude de la parole de Dieu. Lors de son second voyage missionnaire, l'apôtre Paul, accompagné de Silas, se rendit dans la ville de Bérée, et le texte dit qu'ils y trouvèrent des gens qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Et l'apôtre écrit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » La deuxième raison pour laquelle les croyants manquent de discernement est qu'ils mettent en veilleuse l'importance de la doctrine afin de garder l'unité et ne pas semer la discorde. Ils ne veulent vexer personne et croient qu'il faut accommoder tout le monde et que la priorité consiste à donner aux gens le sentiment d'être acceptés et aimés. Oui, mais un enseignement dilué est donc erroné contribue à des compromis théologiques et moraux et crée un système religieux fondé sur l'expérience qui n'est plus le christianisme. En troisième lieu, les croyants sont influencés par leur culture et optent spontanément pour la tolérance comme s'il s'agissait d'une vertu morale. Ils sont mal à l'aise avec l'idée d'une vérité absolue, alors au lieu de la voir en noir et blanc, ils la considèrent grise. Pourtant, les Écritures font une distinction bien nette entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, la foi qui sauve et les croyances superficielles. Elles établissent un contraste bien marqué entre, par exemple, la porte étroite et celle qui est large, la vie éternelle et la condamnation éternelle, le règne de Dieu et celui de Satan, la sagesse de Dieu et celle du monde. Une quatrième cause du manque de discernement des croyants est que les églises ne prennent guère ou pas de mesures disciplinaires envers ceux qui s'éloignent de la vérité ou tombent dans le péché, ce qui permet à la mauvaise herbe de s'établir et de s'étendre jusqu'à occuper tout le terrain. Les commentaires que j'écris ont justement pour but d'aider ceux qui les consultent à connaître les Écritures et ainsi être capables de faire la différence entre le vrai et le faux, d'entrer dans la mêlée spirituelle et de combattre pour la foi. Je continue maintenant à lire la lettre de Jude. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront dans l'impiété selon les mauvais désirs de leur cœur. Versets 17 et 18. Ces paroles font écho à ce que Jude a déjà dit précédemment concernant les apostats, en l'occurrence qu'ils seraient une menace perpétuelle. Ils sont comme la mauvaise herbe qui se mélange au bon grain. Et en effet, ils étaient déjà présents à l'époque de l'Ancien Testament, puis ils ont infiltré l'Église primitive. Ils sont à l'œuvre aujourd'hui et ils continueront à être un écueil dans l'avenir. Étant donné qu'ils sont toujours présents au sein du peuple de Dieu, un jour ou l'autre, on doit s'attendre à les rencontrer. Tout comme l'apôtre Pierre, Jude exhorte ses lecteurs à se souvenir que les apôtres avaient annoncé d'avance l'apparition d'enseignants de mensonge. En fait, Jésus est le premier qui, dans le Nouveau Testament, a mis les disciples en garde contre les apostats quand il leur a dit « Gardez-vous des faux prophètes, lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. » Et à la fin de son ministère, il a encore dit « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. » L'apôtre Paul parle lui aussi de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Et l'apôtre Jean écrit « Attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Quand Jude avertit ses lecteurs en disant « À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu », il répète presque littéralement ce que l'apôtre Pierre a déjà dit. De plus, le mot grec rendu par « moqueur » n'apparaît qu'ici et sous la plume de Pierre. Un moqueur n'est pas simplement quelqu'un qui, dans son coin, porte un sourire narquois. Dans les Écritures, ce mot a une signification beaucoup plus caustique qu'en français. C'est un mélange de mépris et d'arrogance à l'égard de Dieu. Pour cette raison, dans le psaume 1er, on lit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Jude et Pierre font tous deux référence à la fin des temps, une expression technique qui définit la période dans laquelle nous vivons actuellement, c'est-à-dire qui se situe entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Tandis que Pierre écrit que dans les derniers temps, des moqueurs tourneront en dérision l'idée du retour de Jésus sur terre, Jude leur reproche de vivre dans l'impiété selon les mauvais désirs de leur cœur, ce qu'il a déjà dit trois fois dans cette courte lettre. En d'autres mots, ces gens méprisent les lois morales que Dieu a données à l'humanité, ce qui est très grave, car elles sont immuables, furent épelées dans la loi de Moïse et sont même devenues plus strictes sous la Nouvelle Alliance que sous l'Ancienne. Il est évident que les reproches que Pierre et Jude adressent aux apostats sont parallèles et se recoupent, car ceux qui ne tiennent pas compte des lois divines se moquent aussi de l'espérance des croyants concernant le retour du Christ. En réalité, s'ils tournent en ridicule l'idée que Jésus reviendra pour régner, c'est d'abord pour essayer de se convaincre eux-mêmes que cet événement n'aura pas lieu parce qu'ils n'ont aucune envie de rendre des comptes au divin juge pour leurs péchés, ni dans le présent ni dans l'avenir. Les enseignants de mensonges espèrent pouvoir continuer à vivre comme bon leur semble en toute impunité. De toute façon, comme ils n'ont pas été régénérés par le Saint-Esprit, ils sont inaptes à mener une vie de sainteté. Ils sont peut-être religieux jusqu'au bout des ongles, mais c'était également le cas des pharisiens au temps de Jésus et des prêtres qui, aux États-Unis et en Irlande, par exemple, ont commis les pires actes sexuels sur des enfants. Ces sombres affaires ont d'ailleurs fait à plusieurs reprises les choux gras des journaux, parce que c'était une occasion en or de casser du sucre sur les chrétiens dans leur ensemble en les mettant tous dans le même sac. Je continue la lettre de Jude. « Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions. » Verset 19. Jude continue à décrire les caractéristiques des enseignants de mensonges et ajoute à une liste déjà très longue que ces gens provoquent des divisions. En grec, ce verbe signifie « se séparer de », faire une distinction. Littéralement, ils séparent eux-mêmes des autres. C'est donc un choix de leur part et leur motivation pour agir ainsi est évidente, même si Jude ne la souligne pas. Les apostats se considèrent supérieurs à ceux qui sont restés fidèles à la confession de foi qui a été transmise une fois pour toutes par les apôtres. L'idéal chrétien entre les croyants nous est donné par l'apôtre Paul qui écrit « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Un dénominateur commun à tous les apostats, quels qu'ils soient, est une conduite qui est exactement l'inverse de celle préconisée par Paul. Ils s'infiltrent dans une assemblée et la détruisent de l'intérieur en la divisant. À l'origine, quand elles furent fondées, les églises réformées de France étaient toutes en accord avec les grandes thèses de la Réforme, à savoir que les Écritures sont la parole de Dieu, du commencement à la fin, et ont pour but de faire connaître les exigences de Dieu à l'homme pécheur et à le conduire au salut et à mener une vie sainte. Jésus est mort et ressuscité, et lui seul peut donner la vie éternelle à ceux qui par la foi se tournent vers lui et l'acceptent comme leur sauveur. Mais aujourd'hui, seule la branche évangélique, constituée d'une petite partie de ces églises réformées, adhère à la confession de foi que je viens de mentionner. Que s'est-il donc passé? Eh bien, des apostats d'obédience théologique libérale sont arrivés et ont commencé à enseigner des idées humanistes, comme par exemple « l'homme n'est pas fondamentalement dépravé, il suffit d'être sincère et de vivre en accord avec sa conscience pour être sauvé, et il faut trier les Écritures, car elles ne sont pas toutes fiables ». Ce sont ces enseignants de mensonges qui exaltent leurs personnes et leurs propres intérêts, qui sont responsables des divisions qui existent aujourd'hui dans les églises réformées. Le même phénomène s'est produit dans de nombreuses familles d'églises. En Allemagne, la confession de foi des églises luthériennes consiste à faire du social, du bien dans son entourage, ce qui en soi n'est pas mal du tout, mais leur position théologique n'a plus rien de commun avec la foi de Martin Luther. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, la situation est la même. Toutes les grandes familles d'églises, qu'elles soient baptistes, presbytériennes, méthodistes, pour ne citer que les plus connues, ont été divisées par des hommes d'obédience théologique libérale. Aujourd'hui, des assemblées sont même dirigées par des homosexuels ou des lesbiennes qui prêchent leur style de vie particulier. Les mises en garde des auteurs sacrés sont quelque peu barbantes parce qu'ils répètent souvent les mêmes avertissements. Dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes de l'Éternel se sont débattus et ont combattu les faux prophètes pendant toute la durée de leur prédication. Jésus a été trahi par l'un de ses apôtres, puis par les dirigeants de son propre peuple, qui l'ont livré aux Romains. Après lui, les écrivains du Nouveau Testament ont tous, semble-t-il, eu maille à partir avec des apostats de tout poil. À cause d'eux, la chrétienté d'aujourd'hui est tellement fragmentée que seule une intervention surnaturelle de Dieu permet à un être humain en recherche de trouver la vérité.